était d'une résistance quasi incroyable. Même la terrible pression des grands fonds marins ne leur causait aucun dommage. Très peu d'entre eux semblaient mourir excepté par un acte de violence, et leurs sépultures étaient peu nombreuses. Le fait qu'ils enterraient leurs morts verticalement dans des tombes surmontées de monticules en étoiles à cinq branches, avec des inscriptions sous forme de groupes de points, a instillé en nous un soupçon qui nous a obligés, Danforth et moi, à faire une seconde pause, le temps de récupérer après cette révélation. Ils se reproduisaient par des spores. Comme les végétaux ptéridophytes, ainsi que Lake l'avait deviné, mais grâce à leur résistance et à leur longévité prodigieuse, et donc au faible nombre de décès à compenser par des naissances, ils n'encourageaient guère le développement de nouveaux protales, sauf s'il y avait de nouvelles régions à coloniser. Les jeunes atteignaient rapidement leur majorité et recevaient une éducation au-delà de tout ce que nous pouvons être en mesure de concevoir. Leur vie intellectuelle et esthétique, qui semblait essentielle, était extrêmement développée et produisait une série de coutumes et d'institutions durables que je décrirai plus en détail dans une future monographie. Ces lois variaient légèrement selon que l'habitat soit marin ou terrestre, mais leurs fondements et leurs caractéristiques essentielles demeuraient les mêmes. Bien qu'ils aient été capables, comme les végétaux, de tirer leur nourriture de substances inorganiques, ils préféraient de loin les mets organiques, surtout ceux d'origine animale. Sous la mer, ils mangeaient des créatures marines crues, mais à terre, ils faisaient cuire la viande. Ils chassaient et pratiquaient l'élevage, abattant leur bétail avec des instruments tranchants, dont notre expédition avait repéré les traces sur certains ossements fossiles. Ils résistaient merveilleusement bien à toutes les températures ordinaires et, à l'état naturel, pouvaient vivre dans des eaux à une température proche de zéro. Néanmoins, au début de la grande glaciation du Pléistocène, il y a 1 million d'années environ, les habitants terrestres ont dû recourir à des mesures spéciales telles que le chauffage artificiel, jusqu'à ce que finalement la dernière vague de froid les renvoie au fond des mers. Selon la légende, en préparation de leur vol préhistorique à travers le cosmos, ils avaient absorbé certains produits chimiques qui les affranchissaient presque entièrement des besoins de respiration, de nourriture et de chaleur, mais au moment de la glaciation, ils en avaient perdu l'usage. Et de toute façon, ils n'auraient pu prolonger indéfiniment cet état artificiel, du moins pas impunément. Étant de structure semi-végétale et ne connaissant pas l'accouplement, les anciens ne possédaient pas les bases biologiques de la phase familiale de la vie des mammifères, mais semblaient organiser de grandes maisonnées selon des principes d'utilisation optimale de l'espace. Et comme nous l'avons déduit des sculptures représentant les activités des habitants, d'accord mental réciproque entre ces derniers. Tous les meubles se trouvaient au centre des vastes salles, laissant les murs disponibles pour la décoration. L'éclairage, pour ce qui est des habitants des terres, était fourni par un appareillage de nature probablement électrochimique. Aussi bien sur terre que sous l'eau, ils disposaient de curieuses tables, chaises et canapés de structure cylindrique, car ils dormaient et se reposaient debout, leurs tentacules repliés sous eux, et des étagères pour les surfaces couvertes de points qui leur tenaient lieu de livres. De toute évidence, leur forme de gouvernement était complexe et probablement de type socialiste, bien que les sculptures n'aient pu nous apporter aucune certitude sur ce point. Le commerce tant local qu'entre les cités était très développé, certaines pierres en forme d'étoiles à cinq branches et ornées d'inscriptions servant de monnaie. Il est probable que les petites pierres de stéatite verdâtre trouvées par notre expédition en étaient des spécimens. Bien que la culture des anciens était essentiellement urbaine, il existait néanmoins une agriculture et un élevage, ainsi que des activités minières et un minimum d'industrie. Les voyages étaient monnaie courante. Mais l'émigration permanente semblait relativement rare, en dehors des grands mouvements de colonisation qui permettaient l'expansion de la race. Les déplacements personnels ne nécessitaient aucun équipement particulier, puisque les anciens semblaient capables de se mouvoir à vive allure dans les airs, les mers et sur terre. En revanche, des bêtes de somme portaient les charges les plus lourdes, les chogottes sous les mers et une curieuse variété de vertébrés primitifs durant les années tardives de la colonisation terrestre. Ces vertébrés, tout comme une infinité de formes de vie, animales et végétales, marines, terrestres et aériennes, étaient le produit d'une évolution spontanée agissant sur des cellules vivantes qui avaient été fabriquées par les anciens, mais avaient ensuite échappé à leur attention. On les avait laissées se développer sans contrôle, car elles n'étaient pas entrées en conflit avec les êtres dominants. Bien entendu, les formes de vie gênantes étaient exterminées par des moyens mécaniques. Les dernières sculptures, certainement les plus décadentes de toutes, ont particulièrement éveillé notre intérêt. Elles montraient un mammifère primitif maladroit, utilisé parfois comme nourriture et parfois comme bouffon, et dont les traits simiens et pré-humains ne laissaient pas la moindre place au doute.